Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, heureuse de passer une heure avec vous. On a soigneusement choisi quelques-uns des grands reportages diffusés cette saison dans les carnets du monde. Pour les réécouter ensemble, ils nous permettent d'entendre comment on vit ailleurs. Certains reflètent à quel point notre bien commun, notre planète, est en souffrance. Le réchauffement climatique, ce ne sont pas que des sommets politiques, des manifs et des leaders. C'est déjà très concret en beaucoup d'endroits du monde, comme dans cette ville américaine de Phoenix, en Arizona, où il fait si chaud que de plus en plus, on vit la nuit.
Là, j'ai un employé qui commence à travailler ce soir. Il est 10h du soir. Il fait 31 degrés. Je suis un petit peu quand même, en fait. C'est pas des horaires normaux, ça c'est certain, à cause de la chaleur. Et aussi, j'en ai d'autres qui commencent à 3h du matin.
Pour enrayer cette hausse des températures, il va falloir réduire notre empreinte carbone, trouver des alternatives aux hydrocarbures, et il en existe déjà. Par exemple, les champignons alliés à des résidus végétaux.
C'est un petit peu comme dans un paquet de chips, mais un champignon y a été introduit et il va se développer petit à petit. D'ici une à deux semaines, le sachet sera devenu tout dur, comme ici. Les copeaux de peupliers sont complètement agglomérés, le champignon les colle les uns aux autres.
Et vous serez surpris de découvrir tous les pouvoirs du champignon. Et puis on retournera aussi en Turquie, où le président Erdogan n'en finit pas depuis 4 ans de limoger tous ceux qui semblent ne pas être d'accord avec lui. Parmi les victimes des purges, des milliers d'enseignants.
J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon salaire, ma sécurité sociale, mes droits à la retraite. Je ne veux même pas parler de toutes les émotions et de tous les drames que nous avons traversés.
Certains résistent à leur manière et recréent des universités alternatives. On vous emmènera en redécouvrir une aujourd'hui. Et puis on ira aussi se promener au bord du Nil, l'île Éléphantine. Vous connaissez ? C'est là, près d'Assouan, que Corinne s'est retrouvée confinée quand toutes les frontières se sont fermées en mars.
On s'est retrouvés donc à 5 touristes. Donc l'île Éléphantine, ça doit faire à peu près, je pense, un peu plus d'une centaine d'habitants. C'est vraiment le petit village nubien avec les petites rues en terre battue. C'est déjà l'Afrique, pour moi, l'Afrique noire, quoi. Et donc c'est une ville quand même qui, enfin une île qui est quand même assez touristique. Et là on s'est retrouvés vraiment les derniers des derniers. Il y a un côté aventure quand même.
On réécoutera le témoignage de cette Française sur son curieux confinement aux allures de ses jours de rêve. Ce sera vers la fin de l'émission, juste avant d'écouter une jolie chronique de l'ami Joseph Chovanec. Les carnets d'été sont ouverts. Première étape, Phoenix, Arizona.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Que faire face au réchauffement climatique ? Cette question se pose à nous tous, simples citoyens comme dirigeants du monde. Et dans les carnets, toute l'année, de nombreux reportages permettent d'en prendre conscience, car finalement, c'est très concret, ce dérèglement du climat qui impacte de nombreuses vies. Exemple édifiant dans la ville de Phoenix, en Arizona. C'est l'une des villes américaines qui se réchauffe le plus vite, au point d'être devenue une sorte de laboratoire. Et au point que ses habitants vivent de plus en plus la nuit. La semaine dernière, par exemple, il y faisait plus de 45 degrés. Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, était allé constater les effets de cette chaleur extrême chaque jour, ses conséquences sur le quotidien, et il nous a raconté.
Tous les jours, on dépasse assez facilement les 100 degrés Fahrenheit, alors ça veut dire 38 degrés Celsius à l'ombre, comme en fait un tiers de l'année. Et encore, on était mi-septembre, imaginez en juillet ou en août, parfois on atteint les 50 degrés. Et puis, vous le sentez, hein, le soleil est très accablant, très violent. C'est pour ça que les habitants vivent de plus en plus la nuit. On adapte les horaires. Le zoo, par exemple, de Phoenix ouvre à 6h du matin.
Alors, on va vous suivre justement dans cette vie si particulière des habitants de Phoenix, obligés de changer leur mode de vie à cause du réchauffement climatique. Reportage.
La nuit vient de tomber sur Phoenix. Il est 19h, l'heure pour le camion de glace d'aller chercher les clients avec sa petite musique lancinante. Les enfants sortent enfin dehors. Direction le parc à jeux, sous les lampadaires, Abel regarde ses deux fils et sa fille s'ébattre dans les jets d'eau.
Oui, le chien, les gamins, tout le monde doit sortir dehors, même tard. Dès que vous avez une chance, s'il y a des nuages par exemple, tout le monde en profite pour sortir sa famille. Il fait une chaleur de dingue, mec.
Dans la pénombre du parking voisin, Bjorn vient d'arriver pour son jogging quotidien. Maintenant, en mi-septembre, quand le soleil se couche, ça se rafraîchit un peu, dit-il en courant. Mais en juin, en juillet, au crépuscule, c'est impossible. Il fait encore trop chaud. Sur le parcours, on croise d'autres sportifs en train de s'étirer dans le noir. Au même moment, les terrasses des bars et des restaurants de la ville se remplissent. Certains habitants de Phoenix s'apprêtent, eux, à commencer le travail. Devant un immeuble en travaux du centre-ville, rendez-vous avec Frédéric Douet, un Français qui gère des ouvriers du bâtiment pour une boîte d'intérim. Coiffé d'un casque de chantier, il accompagne l'un de ses électriciens.
Là, j'ai un employé qui commence à travailler ce soir. Il est 10h du soir. Il fait 31 degrés. Je suis un petit peu quand même, en fait. C'est pas des horaires normaux, ça c'est certain, à cause de la chaleur. Et aussi, j'en ai d'autres qui commencent à 3h du matin. Ah oui, moi j'ai des petites nuits.
Il fait bon à 3h du matin ?
Ah oui, peut-être en dessous des 30, 3h du matin, ça va, c'est parfait.
Car Phoenix s'anime aussi très tôt le matin. Dès 5h, le trafic est dense sur certains axes. Et à cette heure-là, le parking au pied de la montagne Camelback se remplit vite. Il y a un chemin de randonnée très fréquenté tant qu'il fait encore noir.
Now it's starting to be like 80 degrees in the morning, so it's perfect for hiking. Yeah.
Il fait 26 degrés, c'est parfait pour marcher, dit Jennifer. Cet ingénieur en profite, car ici, dès que le soleil se lève, tout le monde rentre à l'intérieur.
You go from like your air-conditioned apartment to
vous passez de votre appartement climatisé à votre bureau
office.
Climatisé.
And cars.
À votre voiture climatisée, raconte Jennifer. En journée, Phoenix baigne dans l'air conditionné, au point que certains laissent même leur voiture allumée sur le parking quand ils vont faire les courses.
No. We will all melt in there, especially
sans clim, on va tous fondre, rigole Francisco, un lycéen de 17 ans, qui n'en peut plus de cet été sans fin. Quittera-t-il un jour l'Arizona ? Oui, dit-il, j'ai déjà pensé à aller dans des états plus froids, mais au moins ici, il n'y a pas de catastrophe naturelle. Je préfère la chaleur aux ouragans de Floride. Pourtant, comme de nombreux habitants de Phoenix, Francisco sent bien que les étés sont de plus en plus chauds. Son père, ouvrier du bâtiment, se souvient qu'il ne commençait pas aussi tôt le matin il y a quelques années. Et le pire est à venir.
It is projected that heat waves will last longer.
Les vagues de chaleur vont être plus longues et plus fréquentes, explique Ariane Middle, prof et chercheuse à l'Université de Phoenix. Elle étudie les effets du climat sur l'urbanisme.
Ce que nous avons aussi remarqué, c'est que les températures minimales la nuit ont augmenté ces dernières décennies. On appelle ça l'effet îlot de chaleur urbain. L'asphalte des routes ou des parkings, toutes ces surfaces collectent la chaleur pendant la journée et elles la relâchent lentement la nuit.
Dans son laboratoire, l'universitaire a fabriqué une mini-station météo sur roulette. Avec, elle sillonne les rues de la ville pour mesurer les températures, repérer ses poches de chaleur et proposer des solutions.
C'est un laboratoire vivant ici. Nous pouvons tester des stratégies. Par exemple, imposer une certaine surface d'ombre au carrefour. Tout ce que nous pouvons trouver ici à Phoenix sera très précieux pour d'autres villes à travers le monde. Nos conditions sont déjà très chaudes. Et ce que nous voyons ici peut devenir la norme ailleurs dans le futur.
Ariane Middle et ses collègues travaillent de concert avec la municipalité qui a décidé de faire de Phoenix la première ville heat ready, parée pour la chaleur.
Retour dans le studio d'Europe 1, on a chaud, on a enlevé un pull là d'un seul coup. Vous êtes toujours avec nous, Xavier Yvon ?
Toujours et toujours chaud.
Et toujours chaud. Phoenix a pris conscience du problème, mais quelles mesures ont été prises concrètement pour l'instant ?
Alors, il y en a une très importante qui a été appliquée cet été, pour l'instant provisoirement. Les compagnies d'électricité de l'Arizona n'ont plus le droit de couper le courant aux mauvais payeurs pendant les mois les plus chauds, exactement du 1er juin au 15 octobre. C'est un peu comme la trêve hivernale chez nous, mais à l'inverse.
Ouais.
Voilà. Mais à l'origine de cette mesure, il y a une histoire tragique, celle de Stéphanie Pullman, une habitante de la banlieue de Phoenix, âgée de 72 ans, au maigre revenu. Il y a un peu moins d'un an, elle tarde à payer sa facture d'électricité. Son fournisseur coupe le courant et plus de nouvelles. Ses filles qui habitent loin donnent l'alerte. On l'a finalement retrouvée morte de chaud chez elle. Elle n'avait plus la clim, il faisait 42 degrés ce jour-là. C'était début septembre. Tout ça parce qu'elle avait une dette de 51$.
Donc trêve estivale. Est-ce qu'il y a beaucoup de décès comme celui-là qui sont liés à la chaleur en Arizona ?
Oui, il y en a de plus en plus. Les morts liées à la chaleur ont triplé en 3 ans. 76 décès en 2014, 235 en 2017. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi visible qu'après un ouragan, par exemple. Comme le dit la chercheuse que vous avez entendue, Ariane Middle, la chaleur est un tueur qui ne fait pas de bruit. Mais certains experts préviennent, Phoenix pourrait bientôt vivre un Katrina de la chaleur, un scénario catastrophe qui verrait une vague de chaleur extrême faire sauter l'électricité, comme l'ouragan avait fait sauter les digues de la Nouvelle-Orléans. Plus d'électricité, donc plus d'air conditionné dans une agglomération de 4 millions d'habitants. Ah. Vous imaginez le désastre.
Ouais, ouragan ou canicule. On l'a entendu dans votre reportage, cet habitant de Phoenix qui se dit qu'il est mieux loti que ceux qui sont en Floride. Est-ce qu'il y a d'autres États comme l'Arizona qui sont en première ligne du réchauffement climatique, qui mène des politiques aussi pour limiter ses effets?
Alors, tous les États américains sentent les effets du réchauffement, selon les experts. La Californie subit des sécheresses historiques et des incendies monstrueux. Les ouragans en Floride, on l'a vu, sont de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Le Midwest est de plus en plus inondé par des pluies diluviennes. Mais tous les États n'ont pas le même niveau de conscience ou de préparation. Prenez les deux plus grands, la Californie et le Texas. La Californie est en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, elle se bat contre l'administration Trump. Elle est en pointe aussi dans la prévention de ses conséquences. Le Texas, lui, qui est menacé par des inondations côtières, la sécheresse et les chaleurs extrêmes, n'a presque rien prévu. Mais il faut dire que c'est l'État où les énergies fossiles sont reines. Et puis, il y a l'exemple de New York, menacé par la montée des eaux, qui a prévu un plan de près de 20 milliards de dollars, avec notamment une digue rétractable pour protéger le sud de Manhattan.
Voilà ce qui nous attend si on ne fait rien pour rafraîchir l'atmosphère. Allez, chacun de nous plante un arbre au moins à l'automne prochain. Chiche ! Ce reportage de Xavier Yvon avait été tourné pendant le sommet climat de l'ONU qui n'avait pas donné grand-chose. Et alors que la Convention citoyenne pour le climat commençait tout juste ses travaux ici en France, 146 propositions retenues in fine, on le sait, charge au nouveau gouvernement de les mettre en œuvre. À suivre, une innovation qui n'en finit pas de révéler ses qualités. Un nouveau matériau inépuisable et écologique, je veux parler du champignon. Ne riez pas, on peut construire des maisons à base de champignons.
Europe 1, les carnets du monde.
Et jusqu'à 14h, on écoute Le Monde changer avec Sophie Larmoyer sur Europe 1. Et dans ses carnets d'été, on va maintenant braquer nos projecteurs sur une plante un peu magique. Il s'agit du champignon. Et oui, ces derniers temps, des chercheurs ont découvert ses innombrables facultés, Sophie.
Il faut avoir un peu d'imagination. D'ici 5 ou 10 ans, figurez-vous que des vêtements, des meubles et même des maisons pourraient être fabriqués à partir de champignons, un matériau inépuisable et évidemment par définition écologique. Et c'est très sérieux, la révolution du champignon est en marche. La science découvre de nouvelles propriétés à ce végétal qui est en train de devenir un matériau en soi. Et en mars dernier, c'est Ellen Cole qui nous avait alerté sur le sujet, car les chercheurs allemands sont les plus en pointe sur la question en Europe. Ellen Cole nous avait emmené visiter leur laboratoire de Berlin. Reportage.
Kouchtrim Serimi est étudiant dans le département de biochimie de l'Université technique de Berlin. Il nous accompagne jusqu'à la pièce la plus importante pour les chercheurs, une dizaine de mètres carrés seulement. Mais c'est là que tout se joue.
Cette pièce, on l'appelle l'incubateur, car il y fait en permanence 25 degrés et 70% d'humidité. Les champignons poussent dans les meilleures conditions et on cultive tout ce dont on a besoin pour fabriquer nos matériaux.
Il nous montre une table qui secoue des fioles.
C'est un agitateur mécanique. C'est une expérience que nous menons pour savoir sur quelle base, sur quelle matière les champignons poussent le mieux. Est-ce qu'ils préfèrent le maltose, le glucose ou bien juste le bois d'où ils proviennent? C'est le genre de recherche que nous faisons ici.
Sur les étagères, des sachets transparents sont alignés les uns à côté des autres. À l'intérieur, on ne voit rien d'autre que des copeaux de bois.
C'est un petit peu comme dans un paquet de chips. Les petits bouts peuvent bien bouger, mais un champignon y a été introduit et il va se développer petit à petit. Cette préparation, je l'ai faite hier. Au bout d'un jour, on ne voit rien, mais d'ici une à deux semaines, le sachet sera devenu tout dur, comme ici. Les copeaux de peuplier sont complètement agglomérés, le champignon les colle les uns aux autres.
Ce matériau de base, une fois passé à 70 degrés au four dans un moule, est transformable à volonté, par exemple grâce à une imprimante 3D. L'étudiant a ainsi réussi à développer lui-même un premier prototype de casque de vélo. Le laboratoire de Berlin travaille sur 60 espèces de champignons, ceux que l'on trouve dans la région, autour de la capitale allemande. Le chercheur Bertram Schmidt pense avoir identifié celui qui est le plus prometteur, et vous l'avez sans doute déjà vu autour des vieilles souches.
L'amadouvier est l'un des champignons les plus répandus dans les forêts, sur les hêtres ou les bouleaux. Il survit plusieurs saisons, on le trouve toute l'année, et c'est clairement l'un des plus intéressants à l'heure actuelle.
Il permet notamment l'élaboration d'une nouvelle matière révolutionnaire. Explication concrète avec la professeure Veya Mayer, qui dirige le département.
Nous avons ici une sorte de pavé, et la face du dessus est soyeuse. Cette sensation, ce sont les champignons que nous sentons sous nos doigts. À l'intérieur, c'est un mélange de fibres fibres végétales agglomérées par le champignon. C'est très léger dans ma main. Mais si je le laisse tomber de 10 cm de haut sur la table, comme ça, ça ne casse pas. Et on entend bien que c'est très léger.
Testées au laboratoire, les briques du professeur Mayer résistent à un poids de 200 kg. Et d'ici un ou deux ans, elle espère réussir à s'en servir pour bâtir une petite maison.
Cette matière est idéale pour remplacer le placoplâtre. Cela résiste mieux aux incendies, ça étouffe parfaitement le bruit, ça isole parfaitement aussi de la chaleur. Et cela présente une propriété qui s'appelle dissipation de l'énergie. Ça veut dire que si je frappe dessus comme ça, l'énergie du choc est absorbée et répartie sur l'ensemble du bloc. C'est pourquoi nous pensons à une utilisation dans le BTP, dans les régions à risque sismique.
Mais avec les fibres entremêlées des champignons, qu'on appelle le mycélium, on pourra aussi dans l'avenir faire des meubles ou des vêtements. Pour un kilo de textile en champignons, on a besoin de 100 litres d'eau contre 10 000 ou 20 000 pour un kilo de coton. L'objectif à terme est de mettre fin à l'ère du plastique.
C'est correct. Le PVC, le polystyrène, le PET, tout ça pourrait être remplacé par des matériaux dérivés, des résidus de l'agriculture et de l'industrie forestière. Tous ces résidus qui ne sont pas utilisés, nous pouvons les récupérer pour y faire pousser des champignons. Donc oui, en finir avec les hydrocarbures et le pétrole au profit de ce que nous appelons une bioéconomie, une économie basée sur le vivant, une économie circulaire.
Un cercle vertueux, car à la fin du cycle, l'objet en champignon, que ce soit un meuble, un portefeuille ou un casque de vélo, finira au compost. Il est totalement biodégradable et peut même servir à faire de l'engrais. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Voilà, c'est parfaitement scientifique, hein, vous l'avez entendu, et donc très enthousiasmant cette perspective de remplacer des matériaux à base d'hydrocarbures par du végétal pour faire des briques antisismiques et isolantes, de la fibre textile, des matériaux remplaçant le plastique. Pour dépolluer les sols aussi, hein, vous allez l'entendre, on avait appelé un spécialiste de la question. Mais avant, Hélène Kohl nous avait donné quelques précisions sur cette recherche en cours, déjà très ancrée dans notre quotidien. Ce n'est pas de la science-fiction.
Non, le casque de vélo va être breveté cette année, donc on y est déjà. Hein. Alors après, effectivement, les 20 chercheurs et étudiants autour du professeur Vera Mayer travaillent aussi sur des projets de plus longue haleine, comme par exemple l'utilisation des champignons dans les cosmétiques ou pour l'aéronautique. On sait aussi que la NASA aux États-Unis s'intéresse de très près à cette technologie, car cela permettrait de construire les futures bases habitées sur la Lune ou sur Mars, alors soit en transportant ces matériaux qui sont donc très légers depuis la Terre, soit même en les produisant sur place, pourquoi pas. Aux États-Unis, c'est l'université de Cornell à New York qui travaille sur le domaine.
Il va y avoir de la course au brevet. Hein.
Alors, peut-être pas forcément, ça m'a frappé lors de la visite du laboratoire. Vera Mayer insiste sur le fait qu'elle veut vraiment mettre la science au service des sociétés. Et d'ailleurs, elle est en train de mettre en place une banque de données sur Internet. Hein, c'est son but, champignon par champignon, pour que chacun ait accès à cette connaissance, à cette technologie. L'idée est que ce soit une science ancrée dans le local, hein, que chacun travaille avec la matière première présente autour de lui, toujours dans l'idée de durabilité et de respect des ressources. Ici, à Berlin, la recherche se concentre sur les végétaux de la région et donc les résidus de colza, les pins, les bouleaux ou les peupliers et puis les champignons de la région. Mais en théorie, ça marche aussi si vous avez des érables au Canada ou des eucalyptus en Australie. Il suffit juste d'identifier le bon champignon pour que ça fonctionne et d'avoir le mode d'emploi qu'elle va donc mettre en ligne.
Ouais, une solution locale pour des problèmes globaux, en fait. Hein.
Oui, alors ici à Berlin, les chercheurs en sont persuadés, les champignons peuvent apporter des solutions aux grandes questions de notre temps, l'habitat, la gestion des déchets, mais aussi l'alimentation, la question de la pollution de l'eau. Il semble en fait que nous avons sous-estimé trop longtemps la puissance et le pouvoir des champignons. Ça va donc bien plus loin que le côté un petit peu anecdotique, cette petite maison en champignons qui évidemment peut faire sourire parce que ça fait penser à la maison des Schtroumpfs. En tout cas, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser.
Mais voilà, bien sûr, les Schtroumpfs étaient précurseurs, vous avez raison. Vous évoquiez à l'instant, Hélène, l'une des vertus de ces champignons, la dépollution de l'eau. On creuse un peu ce point-là avec Gilles Burban qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte de formation. Pour autant, vous ne faites pas de la myotecture. J'ai trouvé ce mot rigolo dans un article qui évoquait le rôle que pouvait avoir le champignon dans la construction. Vous, vous avez développé un grand savoir-faire dans la dépollution de certains sites industriels, carrément. Expliquez-nous d'abord, techniquement, en quoi ce petit végétal, quel champignon est dépolluant?
Alors effectivement, si les champignons produisent beaucoup de matière et permettent de fabriquer des matériaux, ce que vous évoquiez, eh bien, ce sont aussi de très gros mangeurs. en forêt, et ce depuis 350 millions d'années. Maintenant, ils mangent toute la matière organique qui tombe sur le sol de la forêt. Ouais. Et elle est très variée, cette matière organique. Si bien que s'ils savent dégrader le bois mort, ce qui est sans doute une des choses les plus difficiles à faire dans la nature, eh bien, lorsqu'on les expose à des polluants comme des produits pétroliers, eh bien, on peut leur apprendre tout simplement à digérer, à manger ces matériaux et ces polluants, tout comme ils digéreraient du bois mort.
Ils mangent les hydrocarbures, des résidus d'hydrocarbures.
Ils mangent effectivement des résidus et des hydrocarbures, parfois très complexes. Et ce sont les seuls à savoir faire ça sur Terre.
Alors, par exemple, vous avez un exemple de chantier que vos champignons ont nettoyé, entre guillemets.
Alors effectivement, nos sociétés sont basées autour du lac Léman. Ouais. Un premier travail avait été réalisé il y a déjà 3 ans ou 4 ans avec le groupe FH. Et aujourd'hui, c'est avec le groupe Colas qu'on travaille à Genève.
Donc, ce sont de gros chantiers.
Ce sont des chantiers, effectivement, avec des problèmes très concrets, très réels. Saturés d'hydrocarbures, de produits pétroliers qui sont assez divers, dont certains sont dangereux pour la santé humaine.
Ça veut dire que c'est une méthode plus naturelle, plus rapide et donc moins coûteuse que les méthodes industrielles qui existent jusqu'à maintenant.
Voilà, absolument. Les champignons sont plus rapides, ils sont plus performants que à peu près toutes les techniques utilisées et naturellement, ils ont un impact sur l'environnement qui n'est pas comparable avec des méthodes chimiques ou thermiques avec lesquelles on pourrait essayer de traiter ces sols pollués.
Les industriels, ils ont dû vous regarder avec des yeux ronds la première fois que vous êtes allé leur dire « j'ai des champignons pour dépolluer le site et ça sera plus rapide et moins coûteux
». Oui, évidemment, la première fois qu'on fait pousser des champignons sur un site, le chef de chantier est pour le moins surpris. Effectivement, le travail industriel est de passer d'un savoir-faire qui était cantonné à l'agriculture et de le faire passer dans un domaine technologique avec des facilités de mise en œuvre. Donc, effectivement, on fait toujours pousser des champignons sur des chantiers, mais on essaie de ne pas y venir avec de la paille.
La nature sait se régénérer, finalement. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Toutes nos technologies sont très consommatrices d'énergie. On chauffe, on acidifie pour arriver à utiliser nos technologies, alors que la technologie de la nature fonctionne à froid, à température ambiante et utilise le métabolisme de petits micro-organismes pour fonctionner. C'est ce que nous essayons de faire en travaillant, en collaborant avec des champignons.
Ouais, donc ce sont des solutions géniales pour aller vers une société bas carbone, ce qu'on a tout intérêt à faire très vite. Évidemment, la nature est décidément inspirante. Merci beaucoup. Gilles Burban, vos deux sociétés de dépollution des sols s'appellent Edafos et IFEN. Donc vous êtes situé près du lac Léman. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette expertise et votre passion. Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne regarde plus les champignons de la même manière depuis que je connais leur pouvoir quasi magique. Notre prochaine destination, ce sera la Turquie, où pour échapper à la répression du pouvoir, certains enseignants organisent des facs clandestines.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Sophie Larmoyer jusqu'à 14h sur Europe 1 et dans ses carnets du monde d'été, retour en Turquie pour écouter ensemble un reportage qui met à l'honneur les enseignants, souvent visés par la répression du pouvoir.
Ces dernières années en Turquie, le président Erdogan a opéré un gigantesque ménage. Le putsch raté de juillet 2016 a été le parfait prétexte pour écarter ou affaiblir durablement tous ceux qui n'étaient pas très clairement à sa botte et donc potentiellement qui étaient des opposants. Son administration a ciblé très large, dans la police, la justice, le journalisme, dans les milieux intellectuels évidemment. Plus de 3000 profs d'université ont été limogés, dont certains qui avaient signé une pétition critiquant l'action du gouvernement il y a 3 ans et demi dans les provinces kurdes de la Turquie. Mais loin de se morfondre, certains professeurs ont créé des universités alternatives. C'est le cas à une centaine de kilomètres d'Istanbul, dans la petite ville d'Izmit, dans la province de Kocaeli. Notre correspondante Cerise Sudri-Ledu était allée en octobre dernier à la rencontre de ces 19 professeurs qui ont monté des ateliers et des conférences dans un petit local, avec des cours accessibles à tous. Et Cerise les a rappelés tout récemment, même pendant le coronavirus, ils ont diffusé leurs cours en direct sur Internet. Écoutez le reportage qu'elle nous avait rapporté à l'automne dernier.
Bonjour, bienvenue à la séance inaugurale de l'Université solidaire de Kocaeli pour l'année 2019-2020. Vous êtes tous les bienvenus et être avec vous aujourd'hui est un plaisir et un honneur.
Gülkoksal est un peu tremblante alors qu'elle inaugure la nouvelle saison de son université. Cette ancienne prof d'architecture a beau être une habituée des amphis, le moment est important. car on est ici à l'université alternative de Kojaeli, fondée par 19 professeurs d'université, tous victimes de la purge du régime il y a 3 ans. Alors forcément, son discours de bienvenue est teinté de politique.
L'université de Kojaeli dispose d'un fort réseau de solidarité. Nous le constatons à chaque oppression que nous subissons. Les gens continuent à s'épauler et ce peu importe les pressions qu'ils subissent.
Devant elle, une cinquantaine de personnes, tous âges confondus, a sorti son carnet de notes et boit ses paroles. Gül annonce le programme de l'année, des ateliers aussi variés que des lectures de Spinoza ou traitant du droit du travail à l'heure du numérique. Il y a aussi des séminaires chaque semaine avec des invités extérieurs. Tout le monde est réuni au premier étage d'un petit immeuble du centre-ville d'Izmit. Derrière Keskin, une autre enseignante nous fait visiter les lieux. Une cuisine, une salle de réunion, une grande salle de cours et à l'entrée, un panneau Kojaeli Dayanishma Academici, Académie solidaire de Kojaeli ou encore KODA.
Au début, on l'a appelé l'école de la vie. Mais on a dû changer le nom parce qu'un comité de 7 personnes sont venus pour fouiller et nous a dit qu'on ne pouvait pas utiliser le mot école. On a dû changer pour atelier.
Cette ancienne prof de sociologie du travail de 50 ans n'imaginait pas que sa vie puisse basculer du jour au lendemain. Car elle a tout perdu, son travail, ses élèves, son logement et même sa sécurité sociale. Son seul tort, avoir signé en 2016 une pétition réclamant la paix dans les territoires à majorité kurde au sud-est de la Turquie. À l'époque, des combats faisaient rage entre l'armée officielle et les combattants du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qu'Ankara considère comme terroriste. Des villes entières ont été détruites, des centaines de civils tués, et comme beaucoup d'intellectuels, Derya Keskin avait signé sans hésiter.
J'étais tellement énervée par ce qu'il se passait. Les gens mouraient, même des enfants mouraient, et leurs parents devaient conserver leurs cadavres au réfrigérateur, parce qu'à cause des snipers, ils ne pouvaient pas les enterrer. C'était affreux. Je me suis demandé pourquoi je ne peux rien faire. Pourquoi nous ne pouvons rien faire? Ne sommes-nous pas aussi des êtres humains? Je n'y ai pas réfléchi. J'ai songé que si quelqu'un faisait quelque chose, je devais au moins y participer.
Quelques jours à peine après la publication de la pétition, Derya et 18 de ses collègues sont arrêtés à l'aube et placés en garde à vue. S'ils sont relâchés le soir même, ils comprennent qu'ils sont en sursis et c'est 8 mois plus tard, à la rentrée, que Derya apprend qu'elle est limogée, un terme policé pour dire « virée ».
J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon salaire, ma sécurité sociale, mes droits à la retraite. Je ne veux même pas parler de toutes les émotions et de tous les drames que nous avons traversés avec des amis, avec la famille. Ma mère ne sait toujours rien. Nous avons réussi à lui cacher.
Les conséquences sont multiples. Un de ses confrères me disait par exemple qu'il ne pouvait plus se procurer gratuitement ses médicaments pour la tension et qu'on lui avait demandé de ne plus signer les articles qu'il publiait dans des revues universitaires, trop risqués pour les éditeurs. Alors très vite, les universitaires décident de ne pas se taire et de continuer à enseigner. L'idée de fonder une université alternative fait son chemin et après avoir squatté les locaux d'un syndicat, ils réussissent à louer le premier étage d'un immeuble et l'Académie solidaire de Kojaeli est ouverte à la rentrée 2017. Depuis, les élèves sont assidus. Parmi eux, Diren, 27 ans, est une habituée. Pour cette journaliste qui travaille dans un journal local, la parole libre est ici.
Lors de la première année, j'y allais régulièrement en tant que journaliste. Mais aucune place n'était accordée à KODA dans le journal. Alors j'ai arrêté de venir. Je ne pense pas qu'il y ait de liberté de la presse dans la presse locale, surtout que nous devons nous auto-censurer. Si j'écris quelque chose comme je le voudrais, je serai virée.
Mais elle a décidé de revenir assister aux cours, d'autant plus que pour le premier séminaire de l'année, 3 journalistes ont été invités pour débattre de la liberté d'expression en ligne. Bordu Karakas est une journaliste indépendante. Elle écrit pour les versions turques de médias internationaux comme l'allemande Deutsche Welle. Et en juin dernier, un think tank pro-gouvernemental a publié son nom et certains de ses tweets pour critiquer la couverture médiatique faite par la presse internationale de l'actualité turque.
On parle beaucoup de la liberté de la presse en Turquie. Mais en vérité, cela concerne la liberté d'expression en général. Aujourd'hui, en Turquie, un simple citoyen peut être détenu simplement parce qu'il a exprimé son opinion sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une super idée pour ces universitaires de se réunir, même après qu'ils aient été limogés de façon très injuste. L'un des buts de la manœuvre était de les séparer de leurs étudiants, mais je ne pense pas que ça ait marché.
Mais pour tous les professeurs, pas question d'arrêter. Ils n'ont plus rien à perdre et puis disent-ils, enseigner, c'est la seule chose qu'on sait faire. Izmit, Cerise Sudrilodu, Europe 1.
Voilà pour ce reportage réalisé en octobre dernier. Et une fois rentrée chez elle à Istanbul, Cerise Sudrilodu nous avait donné de plus amples précisions sur ces facs alternatives clandestines, notamment ces quelques cours auxquels elle avait assisté.
Bah oui, j'ai assisté à une conférence sur la liberté d'expression sur Internet et je compte m'inscrire au cours sur les nouvelles formes de lutte dans la crise environnementale. Bon, alors j'ai raté les ateliers d'autodéfense féministe, mais on m'a promis que ça recommençait en décembre.
Il y en a beaucoup en Turquie, des universités alternatives comme Koda.
Il y en a eu pas mal au début, sur les places publiques, dans les parcs et même dans la cour de certaines universités. Mais beaucoup n'ont pas duré, à cause de la pression policière qui s'est exercée. Mais aussi, il faut dire que tenir des mois entiers, alors qu'on n'a pas de salaire et souvent plus de logement, c'est un vrai défi. Derrière me confiait qu'elle ne survivait qu'avec la pension que lui verse son syndicat, qui est de 1000 lira, soit d'environ 150 euros.
Monter une université alternative comme ça pour ses profs, est-ce que ça les expose encore un peu plus ?
Peut-être, mais en fait, ces gens-là, professeurs comme élèves, ils ont depuis longtemps passé la barrière de la peur. D'ailleurs, depuis la création de CODA, si l'administration leur a mis des bâtons dans les roues, par exemple, en compliquant la création de l'association, elle les a laissés organiser leurs cours.
Mais ces profs qui ont été virés, est-ce qu'ils sont inquiétés par ailleurs par la justice ?
Alors oui, il y a déjà eu des centaines de procès et tous ne sont pas terminés. En tout, 2212 personnes ont signé la fameuse pétition et plus de 800 procédures ont été entamées par la justice. Elles accusaient les professeurs de faire de la propagande terroriste. Une de leurs avocates m'a expliqué que dans tous ces dossiers, l'accusation ne reposait que sur l'opinion personnelle du procureur qui suivait celle du gouvernement.
Ça veut dire que la justice est à la botte du pouvoir d'Erdogan ?
Alors c'est la critique habituelle, mais parfois les juges font preuve d'une irrévérence surprenante. En juillet dernier, la Cour constitutionnelle a par exemple estimé que le fait de signer une pétition ne faisait pas d'eux des terroristes et que les condamnés revenaient en fait à violer leur liberté d'expression. Alors la décision a fait boule de neige et provoqué d'autres acquittements. C'est le cas notamment de Derya, que vous avez entendu dans le reportage et qui devait être jugée ce mois-ci.
Au bout de 3 ans, ça a dû être un soulagement pour elle.
Oui, bien sûr, mais pour autant, c'est loin de tout régler. Ils n'ont toujours pas leur passeport et donc impossible de voyager ou de donner des cours à l'étranger. Et puis surtout, personne n'a encore récupéré son poste et ça peut prendre très longtemps.
Et chapeau bas à ces professeurs qui ne lâchent rien malgré des situations personnelles parfois très difficiles, on l'a entendu. Et le régime d'Erdogan a d'ailleurs renoué avec les purges en mai et en juin le mois dernier. Il vise notamment des médecins accusés d'avoir propagé la peur dans la prévention contre le coronavirus. En fait, tous ceux qui critiquent la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, ils risquent entre 2 et 4 ans de prison, sont également visés des journalistes, des policiers et militaires, des députés et maires d'opposition. Une répression accrue qui est liée, selon les observateurs, à la baisse de popularité du président et de son parti, l'AKP. À suivre, une balade sur le Nil du côté d'Assouan, avec le témoignage d'une Française qui a vécu un confinement pas banal au printemps.
Europe 1, les carnets du monde.
Partout dans le monde, les reporters et correspondants d'Europe 1 explorent et racontent d'autres cultures. Dans ces carnets d'été avec vous, Sophie Larmoyer, on va revenir maintenant sur certains moments liés à la crise du coronavirus. Vous aviez eu en ligne certains Français confinés à l'étranger, Sophie.
L'annonce du confinement en France vers la mi-mars a coïncidé avec la fermeture de beaucoup de frontières dans le monde. Quelques derniers avions annoncés, puis les compagnies allaient clouer leur flotte au sol. Beaucoup de voyageurs ou d'expatriés ont cherché à vite rentrer chez eux. Beaucoup, mais pas tous. Corinne Letellier s'est posé la question elle aussi. Elle venait de commencer ses vacances en Égypte. Depuis le Caire, elle avait gagné Assouan en train. Ses boulots en France tombaient à l'eau. Bref, Corinne a décidé de rester là où elle était. Et quand je l'ai appelée, ça faisait un mois qu'elle vivait sur la petite île éléphantine au bord du Nil.
Quand je suis arrivée à Assouan, après 5 jours de présence en Égypte, j'ai appris que les aéroports étaient fermés. Donc oui, c'était pas prévu. J'ai hésité entre rester et partir. Ouais. Et finalement, j'ai choisi de rester sur Assouan, sur la petite île éléphantine qui est de l'autre côté du Nil, en fait.
Ce sont les images des aéroports bondés avec un petit vent de panique qui vous ont dissuadé de partir tout de suite ?
Je pense que c'est ça, en fait. J'ai booké un vol Assouan-Le Caire et puis finalement, je l'ai annulé 5 minutes après Parce que oui, voir les aéroports bondés, la panique, j'avais pas envie d'être là-dedans en fait. Et je me suis dit, ben, advienne que pourra, on verra plus tard. Après, si j'avais vraiment été, je veux dire, au bout d'un voyage avec plus de budget, mais encore une fois, je pense qu'il y avait toujours moyen de me faire envoyer de l'argent par ma famille. Il y avait toujours des solutions.
Alors du coup, vous êtes installée sur l'île Éléphantine avec quelques autres touristes. Vous vous appelez le Club des 5.
C'est ça. On s'est retrouvés donc à 5 touristes. Donc l'île Éléphantine, ça doit faire à peu près, je pense, un peu plus d'une centaine d'habitants. C'est vraiment le petit village nubien avec les petites rues en terre battue. C'est très particulier. Hein. C'est déjà l'Afrique, pour moi, l'Afrique noire, quoi. Et donc, c'est une ville quand même qui, enfin, une île qui est quand même assez touristique. Et là, on s'est retrouvés vraiment les derniers des derniers. Donc, 5 nationalités différentes, 5 personnalités aussi très, très différentes. Ben, tous, on a décidé de rester. Alors, soit par choix, soit par obligation. Parce que, par exemple, l'Australien, lui, peut vraiment, vraiment pas rentrer chez lui. C'est vraiment trop compliqué. Et puis d'autres parce que finalement le job qu'il devait reprendre en rentrant n'existe plus ou enfin voilà, donc on a tous décidé de rester là et oui voilà, on forme une petite équipe internationale, les émissaires de l'ONU comme on aime à se présenter.
C'est une expérience extraordinaire.
Oui, oui, oui. Alors, je la prends effectivement comme une expérience extraordinaire dans tous les sens du terme hein, parce que il y a un côté aventure quand même. Peut-être que j'aurais pas vu l'île Éléphantine de cette façon si j'étais restée que 2 jours, par exemple.
Vous avez l'occasion de côtoyer un petit peu les Égyptiens de l'île ou c'est compliqué ?
Non, non, ce qui pourrait être compliqué, c'est la barrière de la langue. Il faut savoir que sur l'île Éléphantine, il y a beaucoup de gens qui proposent des petits trips sur le Nil pour les touristes. Donc, ils parlent même plusieurs langues, espagnol, français. Et donc, ces gens qui n'ont plus de travail, quand on les croise, ils aiment venir à notre rencontre, parler français, quand ils savent que je suis française. Et c'est des gens qu'on croise régulièrement parce que c'est tout petit ici. Donc,
Ils vous ont un peu adopté, quoi.
Oui, voilà. C'est assez rigolo. Alors, on a des liens des fois plus intimes avec certaines personnes parce qu'ils nous invitent à boire le thé chez eux ou comme l'imam qui tient le petit musée, Mohamed... qui est très, très gentil et vraiment qui a ses portes ouvertes quand on veut.
Mais dites, il n'y a pas de confinement du tout, y a, le coronavirus n'est pas du tout présent dans votre quotidien, il n'y a pas de crainte de ça ?
Si, il y a des craintes. Il y a effectivement, comme ailleurs, quand on sort dans le village, on sent qu'il y a des... Surtout les femmes et les enfants, on les voit rentrer en catastrophe derrière leur porte ou sur le bateau, elles ne veulent pas s'asseoir à côté de moi, par exemple, des réactions comme ça. Mmh. Et se dit qu'en Égypte, il n'y a pas les données exactes sur l'ampleur de la pandémie. Je ne sais pas, en fait.
Mais c'est un pays, d'après l'OMS, qui est quand même très touché.
Ouais. Et en même temps, il y a du monde. Quand j'allais encore la semaine dernière au souk, par exemple, c'est un marché, donc forcément, il y a plein de gens. Il y en a qui portent des masques, d'autres non.
Il n'y a pas de confinement, hein, en tout cas.
Confinement, ce qu'on appelle confinement total, où les gens sortent plus, non. C'est un couvre-feu à partir de 18h le soir. Les magasins sont ouverts. En revanche, tout ce qui est resto, hôtel, site touristique, tout ça s'est fermé depuis bientôt 15 jours. Mais on peut toujours aller faire des achats entre 8h le matin et 18h.
Vous n'auriez jamais imaginé votre voyage comme ça,
non ? Non, mais on connaissait pas le risque de toute façon, parce que ça s'est passé très vite, en une semaine de temps, tout a été fermé en France, en Europe. Et non, pour moi, j'allais rentrer le 30 mars et reprendre le boulot le 10 avril.
Est-ce que vous avez conscience que vous expérimentez le Nil comme aucun touriste ne peut le faire jamais ?
C'est ça, et en fait, non, j'en ai pris conscience il y a 2 jours, quand on m'a dit que normalement à cette période, de toute façon c'est toute l'année, mais le Nil c'est une autoroute. En fait, c'est une autoroute de bateaux, de ferries, de croisières, de croisiéristes, de felouks, de canots à moteur. Et là, en fait, il n'y a pas un bateau sur le Nil. Il y a juste 2 petites barquettes
de paysans qui ramènent de l'herbe, du fourrage pour leurs bêtes. Mmh. Et c'est tout. Et en fait, non, on a vraiment le Nil pour nous tout seuls. C'est quelque chose, effectivement.
Ça doit être très étrange d'être dans cette ambiance très particulière de l'île Éléphantine, dans ce cadre absolument magnifique, sachant, parce que vous êtes très informé, qu'il y a beaucoup d'angoisse et de souffrance à plein d'endroits, et notamment dans votre pays, en France.
Oui, alors le risque, c'était au début, justement, de ne pas profiter, justement, de cette chance que j'ai. Hein. C'est un privilège, quand même, d'être là où je suis. Mais d'être connectée non-stop. Mmh. Je restais dans ma chambre à regarder les fils d'actualité et ça sert à rien. Enfin, je veux dire, je peux rien y faire. Mmh. Ça faisait monter en moi une espèce de, de psychose. Et je me suis dit, à un moment, il faut que j'arrête. Donc, j'évite le matin de regarder les actus.
Connaissant la situation en France, est-ce que vous avez finalement l'impression d'être un peu à l'abri sur cette île éléphantine ?
À l'abri, non, parce que même si nous, on a vraiment limité nos déplacements en ville, les gens continuent à y aller au moins une fois par jour parce que faut qu'ils s'approvisionnent. C'est pas impossible que quelqu'un ramène le virus sur l'île. Et là, je pense que ce serait problématique parce que comme on est les étrangers ici, je pense qu'on serait tenu pour responsable et qu'on nous demanderait de partir. C'est la seule crainte que je pourrais avoir ici, en fait.
Vous allez garder, j'imagine, des liens très particuliers là, le club des cinq là, les cinq touristes.
Oui. Déjà aujourd'hui, on va se faire donc encore une petite virée sur le Nil. Le capitaine Oussama Obama, comme on l'appelle, de toute façon, comme il n'a plus d'activité, il n'a plus de clients, il nous propose régulièrement, si vous voulez, je vous emmène là. En général, on accepte, bien sûr. Donc, il prépare un petit lunch et puis on passe la journée, l'après-midi, sur son bateau. Et c'est vrai, quand on rentre le soir au coucher de soleil sur un île désert avec des oiseaux, on n'en revient pas. Quoi. C'est vraiment ce que je disais, des moments magiques. Quoi.
Voilà, des moments magiques partagés avec nous sur Europe 1, un confinement qui nous avait fait voyager. Et le Club des Cinq a fini par se dissoudre et Corinne Letellier a fini par rentrer, en passant par l'Espagne, qui était confrontée alors, vous vous souvenez, à la pandémie de manière très violente. Elle nous a d'ailleurs expliqué avoir été très étonnée d'entrer en France sans aucun contrôle. Notre prochaine étape dans ces carnets d'été, c'est l'Autistan. Joseph Chovanec nous accompagne avec sa poésie pendant les vacances.
Europe 1, les carnets du monde.
Des reportages long format, des invités passionnants avec vous, Sophie Larmoyer, et bien sûr, notre séquence pour finir avec Joseph Chovanec, car le dimanche, dans ses carnets d'été, on continue à faire un petit tour en Autistan.
Là encore, il a fallu choisir. Parmi toutes les anecdotes de voyage que Joseph partage avec nous chaque semaine depuis 4 ans, avec sa double casquette de philosophe et d'autiste Asperger. Ce jour-là, c'était fin septembre. Il rentrait tout juste de Nouvelle-Calédonie et reconnaissait qu'il a beau être très organisé, parfois, comme tout le monde, Joseph a besoin d'un coup de main, d'un conseil.
Oui, Sophie, souvent voyage, on a besoin d'aide, surtout moi, le spécialiste mondial des gaffes. Ceci étant, demander de l'aide n'est pas facile. Il y a des décalages culturels et obtenir de l'aide, c'est parfois encore plus compliqué. Mmh. Il y a longtemps, lors de mon premier séjour en Extrême-Orient à Taïwan, des camarades de classe américains avaient dit que les Taïwanais étaient certes gentils, prêts à rendre service, mais que leurs conseils n'étaient que rarement utiles. À l'époque, j'avais été choqué d'entendre cela. J'y avais vu de la calomnie. Ouais. Ce n'est que petit à petit que j'ai compris le problème. Même avec la meilleure bonne volonté du monde, on a souvent du mal à se mettre dans la peau des autres.
Ça sent le vécu, ça.
Oui, Sophie, j'ai parfois vraiment honte. Quand je repense, par exemple, à la bêtise que j'ai faite à Beaujour au début de ma période iranienne. Je marchais sur un trottoir de Téhéran quand une dame lourdement vêtue, malgré la canicule, s'était approchée de moi et avait murmuré quelque chose comme l'autre fan comme McConaughey, s'il vous plaît, aidez-moi. Moment de stupéfaction, j'étais un peu égaré sur un plan mental. Ouais. Je lui avais proposé ce à quoi je pensais alors, en bon glouton, une glace.
Une glace à manger.
D'autant plus qu'il faisait chaud. Sauf que la dame s'était écriée d'un ton ulcéré. Non, pas de glace, aidez-moi. Je ne comprenais pas, je me suis enfui et pendant longtemps, j'évitais l'endroit où j'avais croisé cette personne énigmatique qui refusait des glaces sous la canicule. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'il s'agissait tout simplement d'une mendiante. clientes qui voulaient des sous. Et j'ai honte à chaque fois que j'y repense.
Alors en voyage, Joseph, on croise aussi fréquemment des gens qui ne demandent qu'à vous aider, non ?
Eh oui, ce n'est pas parfois le décalage culturel qui pose problème que la générosité des gens elles-mêmes. La semaine dernière, donc en Nouvelle-Calédonie, j'avais rendez-vous avec le chef de l'ère coutumière Haraju. C'est un rendez-vous que très peu de blancs ont. On sort de la ville occidentale, on prend une piste forestière et comme par magie, on se retrouve face à la grande case du village. La distance géographique est faible, mais on a l'impression d'entrer dans un monde parallèle. À la fin de ma discussion avec le chef de l'ère coutumière, j'ai osé lui poser une question. Où pouvait-on trouver chez lui un sculpteur traditionnel ? Je souhaitais acheter un objet d'art. Le chef est resté songeur un instant, puis s'est levé et il est parti. Ça y est, j'ai encore gaffé, fin de l'entrevue, m'étais-je dit. Sauf que quelques minutes plus tard, le grand chef était de retour avec un sublime totem sculpté entre les mains.
Wow.
Et il me l'a donné, ajoutant que c'était le visage d'un ancêtre qui me protégera dans mes voyages.
Oh bah là, c'est bien plus qu'un coup de main.
Oui, j'étais très émue, même un peu gênée. Quand j'ai raconté l'histoire à mes amis blancs, ils étaient très jaloux. Jamais ça ne leur est arrivé. Ils pensaient que j'avais manipulé mon monde parce que ces totems-là se vendent quasiment à prix d'or. Et encore, ce sont généralement des copies. Dimanche soir, à l'aéroport de Nouméa, juste avant de prendre l'avion, je pensais que toutes ces émotions étaient derrière moi. Sur le point d'embarquer, j'ai entendu que quelqu'un m'appelait. C'était un gars que j'avais croisé sans plus sur l'une des îles au large de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Mais il m'avait reconnu et se souvenait parfaitement de moi. Je lui ai dit que j'étais triste de partir. Et il me répond, tu habites où ? Après quelques hésitations, je murmure, en France. Réplique de mon interlocuteur, en France ? Mais ça ne va pas du tout. On va te trouver quelque chose en Nouvelle-Calédonie. J'ai mis fin à la conversation. Je sentais venir le moment où une tribu allait me proposer à l'opater la honte. Dans certains coin du monde, il ne faut pas demander de l'aide.
Et dire que Joseph pourrait avoir un petit pied-à-terre en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Voilà, on retrouvera chaque dimanche de l'été l'une des chroniques de Joseph Chovanec, le grand voyageur de l'équipe. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Fin de Vadrouille. Merci de nous avoir accompagnés avec Marc Fréjean et Florence Gimalac. On vous prépare d'autres meilleurs moments des carnets. À dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.